Nous allons essayer, avec Olivier Soupiot, ici présent, dessinateur de bande dessinée et d'albums pour la jeunesse, avec Étienne Barillier, écrivain, auteur donc d'un énorme guide sur le steampunk, son esthétique, ses idées, sa philosophie, et Didier Graffet, donc illustrateur que l'on ne présente plus. Nous allons essayer, dans une discussion comme à la maison, de comprendre l'engouement autour de ce genre littéraire et esthétique qui est devenu le steampunk, comprendre un petit peu ses tenants, ses aboutissants, ses origines, ses idées. Qu'est-ce que cela signifie? Donc j'ai envie de commencer quand même par Étienne. En quelques mots, pour les néophytes que nous sommes, pourrais-tu nous brosser le portrait robot du steampunk?
Sacrée question. Le steampunk a commencé comme étant une forme littéraire au cours des années 80, quand trois Américains ont commencé à écrire des fictions un peu déjantées victoriennes. Donc Tim Powers, James Blaylock et K.W. Jeter. Et la mécanique s'est arrêtée à petit peu près au même moment, c'est-à-dire que eux, ils ont fait leur livre. Dans une lettre pour le magazine Locus, Jeter a dit que ce qu'ils écrivaient, c'était du steampunk. Mot qui ne veut rien dire, qui n'a aucune connotation particulière, si ce n'est que c'était un terme qu'il avait fait pour se moquer du cyberpunk, qui à l'époque, alors ça c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, le cyberpunk qui était une forme de science-fiction qui dominait vraiment tous les aspects de l'imaginaire. Donc il balance ça. Nous on fait du steampunk et tous les trois passent à autre chose. Voilà, par hasard, il s'est avéré que d'autres personnes ont repris la balle et ils ont progressé un petit peu sur le terrain, proposant de nouveaux romans, puis des artistes ont fait des bandes dessinées, des travaux graphiques, et la sauce a pris ces 10 dernières années, grosso modo.
Mais donc, dans ce que tu dis, alors l'histoire de la lettre, par exemple, c'est quelle date à peu près?
Courant années 80.
Mais c'est presque perçu, tel que tu le racontes, comme une sale blague, en fait.
Mais oui, c'est une blague de sale gosse.
Le fondement...
Le fondement n'est pas sérieux. Quand ils baptisent leur roman steampunk, pour eux, il n'y a pas d'école esthétique derrière, il n'y a pas de revendication littéraire. Ils balancent le terme et c'est vraiment une blague. Sauf que la blague a été prise au sérieux et que le terme est resté.
Alors, et donc le thème étant pas... d'autres auteurs et d'autres créateurs se sont emparés du thème et ont développé cette esthétique donc que l'on retrouve aujourd'hui, par exemple, dans les illustrations de Didier ou dans la bande dessinée, par exemple, d'Olivier. Et est-ce que c'est cette esthétique qui a fait grossir le mouvement ou est-ce que c'est, les textes, des textes fondateurs, par exemple, ou véhiculant quand même, des pensées qui vont au-delà de l'esthétique? Est-ce que c'est pas qu'une pause littéraire?
Je pense qu'il y a un très gros effet d'amplification grâce à Internet, qui fait qu'il y a eu une diffusion plus facile d'images et d'idées. Il est beaucoup plus simple sur un forum de dire « Moi, j'ai vu ça, c'est génial, on appelle ça du steampunk. » Quelqu'un répond « Ah bon, mais moi aussi j'aime, mais je savais pas que c'était du steampunk. » Puis après, c'est « Ah bah finalement, moi, le steampunk, j'adore. » Mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça.
D'accord, mais donc ça veut dire que c'est presque le public qui colle finalement cette étiquette de steampunk et qui affiche ça sur les créateurs. Qu'est-ce que, par exemple, Didier Graffet, est-ce qu'on peut dire que tu es un illustrateur steampunk aujourd'hui?
Oui et non. Enfin, c'est vrai que c'est le terme qui est mis dessus, mais en même temps, c'est un univers qui est tellement large, qui est compris dans une période quand même plutôt 19e victorienne. Mais voilà, après, c'est une espèce d'uchronie qui reprend des choses graphiques très fortes, qui sont aussi compréhensibles par tous et très spécifiques. Je pense à des matériaux. Comme le métal, le cuivre, le cuir, les engrenages, les rivets, des choses qu'on connaît tous, qui sont aussi propres à notre culture, peut-être qui n'est pas américaine à la base, enfin je pense, beaucoup plus européenne qu'américaine, donc c'est pour ça que peut-être que le mouvement s'est amplifié, enfin, j'en sais rien, je pose la question, par la suite, en tout cas chez nous, parce qu'on a des grosses références entre l'exposition universelle de 1889 ou 1900, enfin, des choses qui sont venues comme ça enrichir cet univers. Qui à la base était certainement un terme américain, mais je pense que on l'a bien enrichi de notre côté. Moi, de mon point de vue, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais plus attiré par l'univers de Jules Verne sans même connaître le steampunk entre guillemets. Et puis après, effectivement, ça reste du fantastique, donc 19e, et donc ça peut aussi s'apparenter entre guillemets à du steampunk. Alors j'essaye, moi, de pas trop regarder ce qui se fait sur Internet. Honnêtement, j'y vais jamais. Parce que je veux pas redévelopper ce qui a déjà été redéveloppé de manière un peu systématique. Toutes les références bien établies du steampunk, lunettes rondes, chapeaux de forme et compagnie, même si ça fait partie de manière intégrale de l'univers. Mais j'évite de trop me polluer, entre guillemets, la tête pour essayer de créer peut-être autre chose. Bon, mon principe, c'était d'essayer d'être dans la continuité de ce que je faisais avant. Donc, j'ai essayé de mélanger des choses un peu plus 18e avec du 19e. C'est-à-dire que je prends des bateaux 18e et je les développe. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pas d'image sur écran. Mais je leur rajoute des moteurs, des choses qui sont arrivées beaucoup plus tard, évidemment. Donc je tiens pas compte de l'histoire de la machine à vapeur non plus.
Mais par exemple sur cette image que tu avais fait donc dans le cadre d'une vente aux enchères, tu as pu constater toi-même par la vente elle-même que l'intérêt était vraiment lié à l'aspect steampunk de l'image.
Oui, parce que c'est des références qu'on connaît et quelque part tout le monde aime le steampunk parce que finalement tout le monde connaît l'esthétique du 19e, les halles de Paris par exemple, la Tour Eiffel. Enfin, je pense qu'il y a à la base, on a de la chance parce que c'est déjà quelque chose qui est dans qui est connu par tous et plus ou moins quand même aimé par tous. Ça fait partie de notre histoire. On aimerait bien que l'architecture aujourd'hui soit aussi belle, une espèce de dentelle métallique partout. Je trouve que c'est chouette, quoi.
Mais donc, quand on s'immerge dans l'univers steampunk en tant que créateur, c'est avant tout pour se faire plaisir, en fait.
Oui, tout à fait. Oui, 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 c'est se faire plaisir et c'est rentrer dans une autre histoire qui n'a pas existé, mais c'est aussi repartir plus vers le 19e. Bon, il y avait d'autres problèmes au 19e siècle, hein, mais je pense avec des... Et puis il y a cette notion aussi de gigantisme dans le steampunk qui est très présente, je trouve. C'est l'homme qui a créé des choses qui peuvent le dépasser, même par moments. En tout cas, à la base, c'était pour lui rendre service, c'est-à-dire des engins qui lui rendent service. Et par la suite, là, je vais peut-être en dehors de peut-être un peu trop loin dans le débat, mais... Et qui finalement sont assez attirantes comme ça. Et ça correspondait bien à l'image que je me fais moi de l'illustration avec mon éducation plus d'images bien classiques de Ryu, de Jules Verne, des petits personnages dans des grands décors. Et ça correspondait aussi à l'idée que je me fais de l'environnement.
Mais lorsque, par exemple, au niveau esthétique, par exemple, je joue avec la bande dessinée d'Olivier, qui, dans la bande dessinée elle-même, tu ne reprends pas les canons esthétiques du fin 19e et autres, parce qu'on n'est pas dans cette esthétique de Boulon, on est dans l'époque. Donc là, c'est quoi? C'était, par exemple, mettre en scène des personnages et s'emparer des figures, disons, classiques.
Je dirais oui et non, parce que je pense qu'il y a quand même vraiment un côté steampunk. Justement, quand on dit Boulon, il y a quand même un cimetière des machines. Mm-hmm. Je trouve que c'est typiquement une image forte steampunk. Après, c'est vrai que moi, ça me fait plaisir de savoir qu'au départ, tout ça, c'est parti d'une blague un peu potache. Parce que je pense qu'on est tous ici d'accord pour dire qu'on se fait plaisir, effectivement. Et que, surtout, il y a une façon fantasmée de revisiter l'histoire. C'est ça. C'est-à-dire on a un univers qui s'offre à nous et on a quand même des choses qui ont déjà existé. Donc quelque part, ça fait un support graphique qui est énorme. C'est comme si on avait un énorme catalogue de possibilités et en plus, on vient mettre son petit grain de sel ton petit grain de sable, pardon, pour faire autre chose, quoi. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le bouquin, de faire ce bouquin-là dans un amour de marmelade, c'est de faire ça, c'est de me dire voilà, j'ai une idée qui est assez simple. Ça.
Tu peux nous en parler un petit peu au niveau de l'histoire?
C'est une idée que j'avais depuis un sacré bout de temps. Ça fait à peu près 7 ans que je ruminais cette histoire-là. C'est une histoire qui est très simple. Hein. Ça pourrait s'apparenter à un schéma comics. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est un savant qui subit une mutation involontairement. Donc on est typiquement dans le schéma comics. Sauf que finalement, il évolue dans un monde qui est plus proche d'une uchronie, parce que c'est un Paris qui a été divisé par une guerre qu'on appelle la guerre des trois couleurs. Et du coup, c'est un personnage qui est à la recherche à la fois de sa femme et finalement de sa propre identité. Donc on est dans quelque chose qui développe l'idée de la ville gigantesque, la ville abîmée, la ville en reconstruction. Donc ça, je pense que tout ça aussi, ça peut être des thématiques... Qui ouvre vers un univers steampunk.
Il y a presque une présence à un moment donné un dédoublement de personnalité, presque. Donc là, il y a quoi ? Il y a Freud qui arrive sur la fin 19e dans ton histoire ou...
Ah non, mais il suffit de voir Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a plein d'histoires comme ça. On pourrait même parler de Frankenstein avant, hein, parce que finalement, la créature, c'est... C'est le savant qui remet de sa personnalité dans sa création. Hein. C'est finalement un prolongement de sa personnalité. Donc après tout ça, je trouve que c'est lié. Et c'est ça qui est magique avec le steampunk. C'est pour ça que je trouve ça aussi génial de partir d'un bateau qui est d'une autre époque et de le retranscrire dans autre chose. Et c'est une fabuleuse machine à images et puis aussi à fantasmes.
Oui, tu parles des clins d'œil un petit peu. Moi, j'ai vu par exemple la cagoule dans ta bande dessinée. Là, ouais. C'est Tim Burton.
Ah, c'est très Tim Burton. Oui, je revendique complètement. J'aime beaucoup son univers. Ouais. Mais ce côté cagoule, c'est quelque chose qui date de longtemps aussi. Hein. Pas forcément sur des passages glorieux de l'histoire d'ailleurs. Hein. Mais on peut revenir à des choses comme bien sûr le Ku Klux Klan, mais bon, ça souvent mais quand
c'est moins blague potache
pas,
là.
Non, mais ouais. C'est ce que je dis, pas glorieux, mais en même temps, je trouve que c'était l'idéal pour faire un vrai méchant. Enfin, je veux dire, toujours le côté personnage masqué et en même temps, on définit pas vraiment comment il est. C'est ça aussi, c'est un thème qui a été utilisé plein de fois. Moi, c'est vrai que quand je suis parti sur le bouquin. J'avais plus aussi, je pensais plus à Jules Verne, je pensais à Fantomas, je pensais à des choses comme ça. Et vraiment, j'avais envie de m'amuser comme un gosse. Quoi. Voilà,
quoi. Et alors, quand moi, il y a quand même le mot. On est d'accord, il y a la blague de départ, il y a le fait de s'amuser, il y a le côté esthétique. Je lisais, moi, dans le livre d'Étienne, par exemple, que Michel Pagel dit qu'il était hors sujet avec l'équilibre des paradoxes, par exemple, alors que. Beaucoup d'auteurs français, sans se revendiquer steampunk, ont posé des œuvres majeures dans du genre, en fait. Et est-ce que là, c'est un désir de se réapproprier un passé ? Bon, on est d'accord, ça réinvente un passé. Est-ce que ça peut aller jusqu'au procès d'intention qu'on avait fait à Amélie Poulain, par exemple ? C'est revisiter le passé en édulcorant la totalité et en ayant une vision réactionnaire de l'époque dans laquelle on vit.
Je crois que c'est une réaction très franco-française. Les Américains n'ont aucune honte à reprendre du Mark Twain et à lui tordre le cou parce qu'ils aiment ça et ils le font. Justement, le steampunk à la française nous libère de beaucoup de contraintes par rapport à la citation et au dogme et à la culture. Donc on peut prendre Jules Verne et lui faire violence. C'est ce qu'avait fait Jean Héliot hein, dans son premier roman, La Lune seule le sait, qui envoie Jules Verne en agent secret sur la Lune.
Oui, dont l'intégrale vient de ressortir superbement illustrée par un gros clin d'œil aux éditions Hetzel.
Oui, c'est indispensable. Donc Jules Verne, agent secret, qui va sauver Louise Michel, prisonnière de prison sélénite. Voilà, l'idée est barrée, et pourtant, ça fonctionne totalement. Donc il y a une libération par rapport à notre imaginaire, mais le collectif est important, c'est notre imaginaire à tous.
Alors c'est quoi, c'est on tord le cou aux icônes, ça c'est le côté punk du steampunk alors. Mmh. C'est pas du tout, alors du coup, ce regard réactionnaire dont je pouvais parler,
non, et c'est pas
qui dit que c'était presque mieux avant. Quoi, en fait.
Et c'est pas tuer le père non plus. C'est, on les aime, on joue avec, c'est sympa, c'est comme tu disais, c'est avant tout du plaisir. Et c'est un plaisir que l'on transmet. Le steampunk n'est pas une forme à message. Il peut y en avoir, normalement. Mais ce n'est pas une forme qui a la revendication, on va dire, lourde. Qui est-ce qui aurait envie de vivre à Londres à la fin du 19e siècle? Ou alors à condition d'être dans certaines classes sociales privilégiées, bien sûr.
Mais quand on voit, il y a quelques romans quand même qui mettent en scène des sociétés bien précises, et où là, il peut y avoir quand même un jeu de force politique mis en scène, où on sent quand même une critique sociale qui est sous cette esthétique...
Là, c'est
Gaiman, tout ça. Enfin, y a quand même
la machine à différence de Gibson et Sterling, qui lui a vraiment un poids social et une lecture politique extrêmement prégnante. Mais c'est un peu une exception.
C'est un peu une exception. Donc on est presque au niveau du thème du débat. On est presque d'accord pour dire que finalement c'est une pause esthétique. Ou est-ce que c'est peut-être un peu extrême?
J'ai envie de dire pas seulement, hein. Je veux dire, on raconte aussi des histoires. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a le poids d'un patrimoine. C'est-à-dire, et le patrimoine, il est pas seulement esthétique. Je veux dire, dans les livres, on est dans quelque chose aussi qui est lié à l'écrit. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a une culture qui est là. Et le fait d'en faire autre chose, même si on peut tordre le cou des fois, ça ne veut pas dire non plus, bien sûr, qu'on y manque de respect. Au contraire, je trouve que c'est vraiment ce côté-là qui est intéressant. Voilà, c'est...
Moi, je pense que ce n'est pas que esthétique. On remet en cause quand même des choses, même si on parle de 14-18 parce qu'on est le 11 novembre, mais on peut aussi, et ça a été fait, imaginer... la guerre de 14 avec du steampunk dedans et du coup je pense qu'il y a une évolution qui est sympathique entre guillemets, mais faut faire attention parce que moi je vois les enfants, on en parlait tout à l'heure, mes enfants ils commencent à plus trop distinguer la réalité de la fiction et je pense qu'il faut aussi leur expliquer certaines choses. Bon, alors la réalité est cruelle, on voit des photos, des choses très moches, mais à côté de ça bon, on a envie de s'évader, c'est ce qu'on aimerait tous, le plus possible, mais bon, il faut faire attention quand même à ce qu'on met. Et je dis ça par rapport, on en parlait tout à l'heure, avec certains reportages à la télévision, on commence à mélanger des images qui sont des images qui sont montées, bidouillées, colorées, tout ce qu'on veut. Alors, il y a des images qui sont à la base qui sont vraies, et puis il y a des bouts de films qui ont été intégrés dedans pour lier tout ça. La seule chose, c'est que parfois, on fait presque plus la différence entre les images qui sont fausses et les nouvelles. Et je trouve que ce serait important de mettre un petit logo dans le coin de l'écran pour dire, attention, ça, c'est une image fictionnelle. Même si elle parle de la réalité qui a eu lieu, c'est une image de fiction. Parce que c'est important pour les enfants qui sachent que, attention, là, qu'on nous trompe pas avec des fausses images, quoi. Et peut-être que dans 150 ans, on fera des films sur 14. Là, je voyais Captain America, ça me faisait rire, mais bon, c'est une sorte d'évolution de la guerre, comme ça. Alors, on rajoute des costumes, des machins, un couteau dans un coin. Bon, je pense qu'il faut être peut-être prudent, surtout quand on joue avec l'histoire, aujourd'hui.
Le 14-18 steampunk, c'est en cours. C'est la série des Sentinelles. Qui est vraiment intéressante en soi. Mais pour rebondir sur quelque chose que tu dis...
C'était quoi? C'était bref, vas-y.
C'est ce que tu disais tout à l'heure sur le matériau. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'ai commencé à travailler sur le steampunk. C'est que justement, il y a la réhabilitation à la fois du matériau noble, mais comme devenant une chose du quotidien, un utilitaire à base de cuir, de bois, de laiton... Mais aussi, c'est un objet, un matériau noble qui a été travaillé par la main de l'homme. Donc, il y a également une réhabilitation du travail. J'adore mon iPhone. Je le trouve super beau. Mais voilà, il n'y a pas d'humain inscrit dedans. C'est un pur objet de design. Il est froid. Par contre, quand on voit certains objets steampunk ou certains véhicules steampunk, on imagine parfaitement l'ouvrier qui a travaillé pour serrer les boulons ou couper les planches de bois ou tailler dans le cuir. Donc on remet, certes, dans la machine gigantesque...
C'est la chaudronnerie.
Voilà. Mais on remet des métiers comme l'horloger, des figures disparues.
Oui, non, mais c'est autre chose. Enfin, je veux dire, ça fait partie de cet univers, c'est évident. Voilà. Après, je parle juste, moi, du futur du steampunk. Dans quelques années, où est-ce qu'on en sera? Comment nos enfants le percevront? Est-ce qu'ils l'auront vraiment intégré dans leur imaginaire? Je pense que oui. Voilà, c'est tout. Après, qu'ils n'oublient pas la vraie histoire.
Voilà, il ne faut pas que la référence
dépasse, comme aujourd'hui, beaucoup de choses. On voudrait les effacer et puis créer une autre réalité, en fait.
Oui, le steampunk risque de, comme tu disais, de fausser la vision du passé de tes propres enfants.
Je pense que nous tous ici, on a évolué, on a vu, on connaît l'histoire, on a eu des cours, il y en aura d'autres. Mais je pense que... Enfin, je vois mes enfants, ils ont une vision complètement idyllique de plein de choses, quoi. Et je pense qu'ils oublient peut-être la réalité. J'évite de trop leur en parler, parce que c'est un peu cruel. Mais je pense qu'il faut aussi... C'est une belle esthétique, mais faut pas non plus gommer l'histoire avec.
Moi, il y a un côté. Étienne parle par exemple de remettre au goût du jour les métiers, l'artisanat, enfin l'objet, montrer l'intérieur de l'objet. Je vois ne serait-ce que la montre qu'a Didier au poignet, où on voit tous les rouages, on voit vraiment le travail de l'horloger.
On voit tous les rouages, on en voit qu'un.
Il y a un côté quand même effectivement presque nostalgique qui moi me paraît prégnant quand même à toute la littérature, toute l'esthétique. Alors, est-ce que c'est un courant, par exemple, qui n'aurait pas pu avoir connaître de cet essor ou ne serait-ce que même sa naissance, par exemple, si on n'avait pas parlé de choc pétrolier? Est-ce que si on n'avait pas une inquiétude sur les ressources énergétiques, on n'aurait pas créé... Est-ce que ce courant aurait quand même
Je pense que de toute façon, il y a un côté réécriture de l'histoire, d'une certaine manière. Mais réécriture de l'histoire telle qu'on aime, on aurait aimé être qu'elle soit, en fait. Enfin, voilà, il y a ce côté-là, il y a le côté... forcément, il suffit de regarder, par exemple, je pense aux voitures. Quand on regarde les voitures actuelles, et quand on regarde les voitures au début de l'histoire de l'automobile, franchement, s'il y avait à choisir au niveau de l'esthétisme, il y a quand même des pures merveilles qui ont été réalisées. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, c'est ce qui était dit tout à l'heure par rapport au choix esthétique, le fait qu'à un moment donné, on reprenne des vieux métiers, des choses qui... Mais on est rentré dans une société où il faut toujours produire de plus en plus, où on est dans le fonctionnel, où il faut que les choses soient le plus opérationnelles possible. Et quelque part, peut-être que le steampunk, c'est une manière de finalement d'enlever tout ça et se dire, bah oui, mais ça aurait été quand même mieux si on avait continué à faire des bâtiments à la Horta, ou si on avait recréé des véhicules qui peut-être iront moins vite, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans au niveau de l'ambiance. Je crois qu'il y a il y a toujours ce côté où on joue, quoi, où on se dit bah oui, mais le monde, il est tellement difficile tel qu'on le conçoit, tel qu'on le vit. Finalement, il y a un côté rassurant aussi de se réinventer une histoire pour être dans quelque chose qui est fantasmé, encore une fois.
Alors, tu prononces quand même le mot jouer. Je reviens un petit peu sur... Parce que est-ce que le steampunk, alors pas forcément sur son esthétique, en tous les cas, mais le courant steampunk, est-ce qu'il peut avoir, j'irais presque, une application dans le monde réel? Est-ce que ce n'est pas qu'un jeu? Parce que moi ce qui me trouble, en fait, c'est que on le présente comme étant un enfant de la science-fiction, alors que moi j'ai l'impression quand même, et là je vais me faire lyncher, mais j'ai l'impression qu'avec tous ces codes établis, tous ces artefacts nécessaires, disons, à la perception du steampunk, on est plus dans un courant qui est plus proche de la fantasy, avec des codes, que de la science-fiction qui, pour moi, me semblait être un courant littéraire relativement ouvert.
Oui, mais quelque part, c'est jeune et tout est à inventer encore. Je veux dire, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est assez récent. Je crois qu'il y a encore, plein de choses à mettre en place. Et c'est inépuisable. Donc je crois que ça va aussi évoluer au fil des années. Je trouve que après c'est ça qui est intéressant, c'est que vu que c'est relativement récent, donc
c'est peut-être aussi assez rassurant de penser de se retourner vers le passé et pas vers le futur. Enfin, je veux dire, c'est un rétro-futur, quoi. C'est quelque chose qui, voilà, c'est rassurant. Même en histoire de l'art, à chaque fois qu'on a été trop loin, on revient en arrière et puis on reprend les classiques parce qu'au moins c'est quelque chose de plus sûr, entre guillemets. C'est un exemple.
Étienne, par exemple, en faisant le travail sur le steampunk pour ton livre, est-ce que tu as perçu cette idée que le steampunk pourrait être arrivé comme étant un palliatif à la science-fiction, à l'arrêt du rêve lié à la science-fiction ?
Oui. Avec l'idée que si la science-fiction ne fait plus rêver au sens de on envoie une sonde vers Mars. C'est waouh. Non. Par contre, un dirigeable géant au-dessus de Paris avec une attaque martienne et Juve qui débarque pour... Là, ça redevient sympa. Il y a tout un... La frontière qu'il fallait dépasser que proposait la science-fiction... maintenant, on nous a expliqué que c'était trop cher, que ça devenait économiquement difficile, que c'était des programmes qui demandaient des coopérations internationales compliquées, etc. Donc, pour le grand public, il n'y a pas de un imaginaire immédiat qui se greffe à l'idée du futur. Le futur ne fait pas rêver. Comme moi, il a pu me faire rêver quand j'étais enfant. Par contre, le steampunk, ça me renvoie à une époque où il y avait encore des zones sur le globe qui étaient des terres inconnues. Il y avait un espace pour l'exploration, un espace pour la grande aventure. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer une grande aventure qui serait purement joyeuse, festive, avec des mystères, avec un grand méchant, mais qui se déroulerait dans le monde contemporain. On rajouterait immédiatement du cynisme, ou on ajouterait un second degré. Et ça deviendrait quelque chose de très formaté, je trouve. Tandis qu'avec le steampunk, je peux reprendre le thème de la grande aventure sans cynisme. Parce qu'à cette époque, c'était possible. Donc je peux avoir un agent secret valeureux avec sa fidèle assistante et les balancer dans mon histoire. Donc là, après, tu peux dire que c'est rétrograde, que c'est...
Non, c'est une question.
Moi, je dirais, mais par contre, en pesant mes mots, que c'est réactionnaire. Parce que, mais sans connotation négative. C'est pas dire on revient en arrière, c'est on regarde ce qui a été fait et on voit ce qu'on peut en faire maintenant.
Une littérature d'évasion, quoi. Vraiment une littérature d'évasion. Enfin, en tous les cas, un genre d'évasion.
Oui.
Que ce soit lié, par exemple, aux grandeurs nature, aux costumes, à tout ça, quoi. Toi, avec ton livre, tu as vu, de plus près, comment le grand public, comment les fans s'étaient emparés du mouvement pour lui donner cet essor-là, j'imagine. Parce que moi, à chaque fois que j'en parle à quel que soit le créateur auquel je m'adresse, aucun ne me dit « je fais du steampunk ». Que ce soit Stéphane Halleux, par exemple, qui est dans ton livre, que ce soit Broadmore qui est à l'étage, aucun ne se revendique comme étant artiste steampunk. Donc ça, j'ai vraiment l'impression que c'est un mouvement qui vient du lecteur, qui vient du public, pas forcément d'ailleurs du lecteur, du joueur avant tout, quoi, de celui qui s'est emparé de cette esthétique-là pour en faire...
Des gens que j'ai pu rencontrer, personne n'a eu le même chemin qui l'a amené au steampunk. Moi, mon chemin, ça a été les Mystères de l'Ouest enfant, Jules Verne, puis après la littérature. Mais d'autres sont passés par le jeu de rôle, d'autres par le manga, d'autres par l'image pure, d'autres par le grandeur nature. Donc toute une série de chemins différents qui fait que, grâce au steampunk, des gens extraordinairement différents se parlent. Et sont amenés à découvrir des choses qui sont totalement variées. Donc ça, c'est une marque de vitalité et qui explique en grande partie pourquoi ça se diffuse de plus en plus, parce que ça touche de plus en plus de personnes. Et que je suis persuadé que toutes les entreprises hollywoodiennes ou de mode, etc., payent très cher des gens pour sentir ce qui bouge. Je suis désolé de le dire, mais Justin Bieber a fait une séance de photos steampunk.
Ah, alors là, ça alimente un peu mon propos. Hein.
Bah, la récupération, hein, c'est...
Mais c'est vrai que bon, quand on voit, tu disais Olivier tout à l'heure que c'était relativement jeune, effectivement, comme mouvement. Parce que moi, je me souviens par exemple quand Daniel Rich sort Futur antérieur au fleuve noir en 99, personne n'avait quasiment entendu parler ou ne revendiquait le terme de steampunk. Il y avait à la même époque, il y avait l'équilibre des paradoxes de Pagel justement, Joan Elliott après. Bon. Aucun ne se revendiquait. J'avais vraiment toujours l'impression que c'était une étiquette qu'on mettait a posteriori sur les œuvres, comme on l'aurait fait aujourd'hui avec Jules Verne, en disant bah, finalement c'est une esthétique steampunk. Quoi. C'est vrai que le Nautilus a donné quasiment la ligne éditoriale de tout le mouvement. Quoi.
Alors bon, la question c'est le Nautilus de Jules Verne ou le Nautilus réimaginé et totalement recréé par Disney hein, ce sont deux.
C'est entre les deux.
Hein. Les différents. Enfin.
Mais Didier, par exemple, lorsqu'il a fait donc 20 milieux sous les mers, a retravaillé sur les plans du Nautilus. En fait, tu t'étais rendu compte quand même que Jules Verne avait pensé à un bâtiment qui ne fonctionnait
oui,
pas finalement.
En fait, j'avais vu le film de Disney avec le Nautilus de Harper Goff dans les années. Moi, je suis né en 70, donc dans les années 80. J'avais été voir ça avec ma grand-mère, donc ça m'avait fasciné. C'est un film de 54, je crois, à peu près. Enfin, non, j'ai pas voulu le revoir avant de faire le livre parce que c'est tellement fort, donc je suis resté avec mes souvenirs pour aborder ce bouquin. Et effectivement, Jules Verne décrit l'intérieur du Nautilus pièce par pièce, tout ce qui, voilà, en allant de la salle des machines jusqu'à la cage du timonier. Enfin bon. Et donc, je me suis amusé à redessiner le plan, mais en fait, si tout le monde le fait, on a tous le même plan. Il n'y a que l'extérieur qui va changer, l'appréhension de, entre guillemets, de la carlingue du Nautilus. Quoi. Mais bon, c'est vrai que l'image de très victorienne qui a été faite avant est fabuleuse. À la base, la description de Jules Verne est beaucoup moins fantaisiste. C'est juste un cigare avec une cage à l'avant, la cage du timonier, donc qui est rétractable pour pouvoir y prôner. Et puis à l'arrière, une lampe, quoi, enfin, un fanal qui éclaire le Nautilus. C'est tout. Une espèce de grand cigare. Il n'y a pas d'extension fantastique plus que ça. Et bon, c'est peut-être ce qui me manquait quand je faisais le bouquin. Effectivement, je voulais un truc un peu plus... c'est un roman qui a été écrit en 1870, donc c'était l'époque où je pense qu'il y avait les premiers sous-marins pendant la guerre de Sécession, enfin... Donc ça alimentait un petit peu le truc. D'ailleurs, on retrouve l'esthétique dans les jeux Warhammer avec des espèces de machins, de bateaux blindés, des espèces de grosses tortues sur l'eau qui avaient, pendant la guerre sécession, ils avaient mis des gros morceaux de tôle autour des bateaux. Donc voilà, on se sert quand même de choses qui ont existé aussi dans l'histoire et après on les développe, on recrée autour de ça tout un courant artistique avec des références artistiques connues. Tu parlais de Horta tout à l'heure. On va mélanger des choses qui sont assez simples finalement, c'est des choses de l'époque. Voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui s'emparent de ça aussi pour faire jouer du relooking de pas mal d'objets. On voit ça sur Internet. Bon, c'est vrai qu'un PC steampunk, c'est assez impressionnant. ça fait envie. Chez moi, j'ai fait un atelier plutôt 19e parce que c'est mon truc. Ouais. Voilà.
Ouais, je confirme.
C'est pas très compliqué en soi, hein, mais faut planter des...
Des boulons.
C'est pas des boulons, non. Ni dérivés, c'est pas dérivé, parce que là, j'ai pas ce qu'il faut. Mais c'est quelque chose qui est identifiable tout de suite, qui est beau à regarder, qui est sympa, qui peut être très complexe, qui fait effectivement appel à la base à une main d'œuvre qualifiée presque, enfin, la chaudronnerie et tout ce qui va avec. Et puis... Et puis ça peut être très complexe et très, on peut aller très très loin dans le concept aussi. On peut rajouter des choses sur les choses, on peut, ça peut être très compliqué. Bon, après il faut essayer peut-être aujourd'hui de l'imaginer autrement, parce que la moindre bonne chose aujourd'hui est captée dans n'importe quel média, cinéma, film. Enfin bon, moi ça me, j'essaye de sortir un peu de ça parce que je trouve que c'est un peu décevant de voir toujours les mêmes choses, toujours refaites. Encore mieux et encore mieux, mais je pense qu'il y a peut-être une manière d'envisager un petit peu différemment en changeant quelques, en changeant peut-être un peu le concept de départ, juste pour pouvoir partir sur une voie parallèle. Mais bon, c'est ma vision, histoire peut-être de faire quelque chose d'un petit peu plus original. En tout cas, de le faire avec mon ressenti et pas forcément avec tout ce que je vois qui va tellement m'influencer qu'à la fin je vais faire ce que... voilà. C'est peut-être le danger de ce mouvement qui est très complexe et qui montre beaucoup de choses d'un coup.
Est-ce que c'est, oui, c'est pas que le Nautilus versus iPhone quand même, quoi. Mais moi quand tu parles de toute cette esthétique liée à l'engrenage, à la, je me dis que c'est vraiment générationnel. J'ai quand même l'impression que c'est vraiment générationnel et limité dans le temps, disons, auquel ça fait référence sur la base de départ, et que ce sera limité dans le temps sur après, en fait. Parce que cette esthétique-là, par exemple, le rouage, le boulon, ça parle à une certaine génération, ceux du mécano encore en métal à l'époque, par exemple. Mais ça ne parlera pas à celui dont le jeu de l'enfance était l'iPad ou l'iPhone.
Oui, mais quand on regarde les jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux qui sont dans cette veine-là. Je ne sais plus comment il s'appelle, ou qui est super beau là, où il y a tout un univers de rouille, de,
oui, je sais pas, BioShock. Hein.
Voilà. Je pense que ça se nourrit, et je pense qu'après il y aura toujours des personnes qui vont capter ces choses-là et qui vont les retranscrire à leur manière. Je pense que ça, enfin, je suis pas visionnaire, hein, mais je pense que ça peut durer dans le temps. Je pense que ça peut continuer. Ouais.
Et toi-même, par exemple, lié à la bande dessinée ou au livre illustré, tu continuerais dans cette
Moi, déjà, j'aimerais beaucoup en faire un deuxième. Maintenant, pour l'instant, je suis reparti sur...
Il y a M. Glénat dans la salle.
Je suis reparti sur autre chose. Je suis justement reparti sur 14-18, où je fais un travail complètement différent. Parce que là, du coup, je fais de la documentation énorme sur notamment l'histoire de l'aviation, le début de l'aviation de guerre. Mais effectivement, ça me touche beaucoup ce qui a été dit là, parce que moi je suis vraiment dans ça en ce moment. En plus, sortant d'un univers comme celui de Marmelade, j'ai besoin de me confronter à la réalité, de voir effectivement plein d'images terribles d'un conflit atroce, quoi, comme la plupart des conflits, mais là vraiment d'un point de vue physique. Et du coup, c'est moi c'est vrai que je m'interdis pas de repartir aussi de repartir dans un univers comme ça, où en fait on a effectivement une énorme liberté, quoi. C'est vrai que c'est ça aussi qui est magique. C'est comme si on avait, je vais encore reparler de jouets, hein, je suis désolé, hein, j'ai 40 ans, mais j'ai toujours mon âme d'enfant, donc je pense que la plupart des gens qui sont dans le steampunk, ils ont aussi quand même ce côté-là, je pense, qui est lié très fortement à l'enfance. Mais c'est vrai que c'est un grand terrain de jeu. C'est un grand terrain de jeu. Et puis les jouets, c'est les instruments du temps. Sauf que on s'en sert et puis on en refait autre chose. On fait des mélanges. Voilà, c'est vraiment. Enfin, je trouve ça super intéressant.
Et donc, Étienne, alors l'avenir du steampunk?
Là, j'étais en train de penser à la Brigade Chimérique, hein, qui, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, a un contenu. Un contenu au sens militant, à la fois dans la vision du monde, la vision politique du monde, mais aussi la vision artistique, avec la volonté de réactiver tout un imaginaire français que l'on a bien oublié. Et je me dis que si voilà, un adolescent qui va lire la Brigade Chimérique, qui va en prendre plein la tête, et qui va peut-être lire du Leroux, ou lire du Verne, avec une idée de transmission, de préservation d'un patrimoine. Je pensais au Réseau Bombis, la bande dessinée Le Réseau Bombis de Corbeyran et Cécile, qui se déroule dans un Bordeaux steampunk totalement art nouveau, sublime, où là aussi il y a tout un travail de d'éducation de l'œil qui a un sens. Donc là, je pense que le steampunk a encore beaucoup de choses à faire, non pas en restant dans une norme internationale, c'est-à-dire que faire du steampunk victorien, presque au bord de la caricature, mais faire un steampunk culturellement en prise avec la culture nationale. Qu'il y ait un steampunk français qui se développe avec du Lupin, avec tout ce que tu voudras, qu'il y ait un steampunk polonais, et que tout ça se mélange finalement.
La caricature, c'est quand même le risque majeur du.
Mais ça, c'est comme pour toutes les formes esthétiques. Surtout que le steampunk est aisément caricaturable, pardon. Parce que on peut le réduire très très facilement à quelques éléments, oui. Aux États-Unis, ils ont publié une bande dessinée. C'était un éditeur assez médiocre qui a fait un volume. C'était Sarah Palin, Steampunk. Ah. Donc, les aventures steampunk de Sarah Palin. Il faut voir ça une fois dans sa vie et mourir.
Elle était élue dans l'histoire ou
En corset, ouais. Et elle défendait l'Alaska. C'était insupportable.
Une dystopie terrible. Didier, donc l'avenir de tes images steampunk, avenir ou pas avenir?
Quel niveau, j'en sais rien.
T'as envie de continuer dans cette esthétique-là, même sur tes travaux personnels?
Je sais, t'as un projet, je crois, avec Xavier. Je pense que plus ça va et plus on avance dans ce genre de sujet, en tant qu'illustrateur ou graphiste, tout ce qu'on veut, et plus on quitte les clichés et on rentre dans quelque chose de plus en plus concret, parce que l'histoire est vraiment là, quoi. Et c'est là où ça commence à être intéressant. Moi, souvent, je photographie des clochers ou des toits 19e et je les réintègre dans mes images. C'est-à-dire que j'ai une base de photos qui commence à être importante et ça me sert. Donc, je prends cette image-là et petit à petit, je la déforme et j'arrive à quelque chose d'autre. Donc, mais pour moi, c'est aussi important de savoir qu'à la base, il y a quelque chose qui est dans l'histoire. Et que je peux déformer. Bon, après, ça devient une image fantastique. Mais voilà, plutôt que de partir sur un truc complètement libre, je vais faire trois rouages, un gars avec un chapeau, et puis rien. Non, non. Là, il faut. Enfin, c'est là où il faut avoir. Peut-être, finalement, c'est assez exigeant le steampunk. Si on regarde bien, ça demande quand même des réflexions. Si on veut pas tomber dans des choses un peu faciles, à la fin, ça demande une recherche de costumes. Je fais pas de BD, mais je pense que c'est comme ça que tu l'as dit, tu travailles comme ça. La recherche sur les biplans, sur, je sais pas moi, le Baron Rouge steampunk, tout ça. Donc, c'est déjà un univers qui est, en plus, un univers, je dirais, de fer et de sang, ou de toile d'avion et de choses comme ça. Et en plus, on en rajoute par-dessus et on va arriver à un quadriplan steampunk, Et le Baron Rouge, il va piloter un truc... trois fois plus gros que lui, avec des câbles, c'est ce genre-là. C'est une espèce de... On en fait un petit peu plus, mais on part peut-être de quelque chose de bien réel. Enfin, c'est comme ça que j'envisage, moi, le steampunk.
Il peut y avoir un discours un peu plus social que juste un mouvement type le gothisme ou les choses comme ça, plus qu'esthétique, entre guillemets.
Enfin, l'esthétique, c'est pas forcément en faire toujours plus, mais l'intérêt, c'est vraiment de partir sur quelque chose de bien concret, je pense, qui est quelque chose que les gens connaissent en plus. Le Fokker du Baron Rouge, les gens le connaissent. Ils ne savent pas que ça s'appelle Fokker, mais ils savent que c'est le Baron Rouge, ou s'ils ne le savent pas, ils ont déjà vu ce type d'appareil. Ils savent que c'est propre à la Première Guerre mondiale. Et donc, on a déjà une base qui est commune. Après, par la suite, en imaginant que cette technologie, par exemple, de l'avion est beaucoup plus développée, qu'il a plus d'ailes, qu'il est plus gros. On peut aussi imaginer qu'au sol, tout est plus gros. Les gars, ils ont des tanks surdimensionnés. Les gars qui courent, ils ont quand même un peu plus de bardas sur eux. Ils en avaient déjà beaucoup à l'époque, mais voilà. Les tranchées sont peut-être encore plus étendues et tout devient monstrueusement gigantesque. C'est un petit peu, moi, ce que je ressens quand je vois du steampunk. C'est-à-dire que aussi bien pour créer parfois de l'électricité, même si c'est plus de la vapeur, on arrive à l'électricité. Je pense à Cugnot, notamment, la première voiture à vapeur. Bon, c'était quatre grosses roues avec une énorme chaudière. Donc c'était, pour réussir à développer un minimum d'énergie, il fallait un gros système. Donc maintenant, on parle de l'iPhone, où on a dans l'iPhone la technologie qui était l'équivalent de la technologie employée pour aller sur la Lune, bon, dans un petit machin comme ça. Mais à l'époque, et j'imagine aussi, donc ce côté esthétique, enfin la fonction des choses participe au côté esthétique, des grosses centrales électriques, des gros alternateurs, voilà, tout ça c'est l'esthétique qu'on a dans Steam Boy par exemple, ça fait partie intégrante de l'univers, mais la fonction aussi est induit l'esthétique, c'est ça que je veux dire. Alors moi je le vois ça peut-être avec un œil un peu plus rêveur du voyage et de tout ça, mais j'essaye de garder ça en mémoire, en arrière-plan, quoi.
Moi, ce qui m'a un petit peu rassuré, c'était de voir la, je crois que c'est la citation de Steampunk Magazine, donc Love the Machine, Hate the Factory. Je me suis dit, tiens, qu'il y avait quand même un regard social, peut-être, sur le lié à ce mouvement. Je ne sais pas si on peut faire passer un micro dans la salle, peut-être s'il y a des questions. On va libérer la scène dans très peu de temps. Ah, il y a une question, mais il va falloir la hurler, je crois. Merci.
Merci. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une date de péremption au steampunk? Je veux dire, est-ce qu'il y a une date avant laquelle ce n'est pas du steampunk, mais de l'industriel punk, et une date après laquelle ce n'est plus du steampunk, mais par exemple du radium punk, comme ils ont appelé pour la brigade chimérique?
Pour moi, le steampunk s'arrête avec la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est une telle fracture à tous les niveaux qu'après, quelque chose de nouveau démarre. Et après on embarquerait, ça serait le dieselpunk, donc cette fois un imaginaire qui se fixe sur les années 50, et quelque chose de nouveau qui part, donc sur tout avant et après la Seconde Guerre mondiale, et après ça sera Mad Max.
Bonjour, est-ce qu'on peut considérer que Sucker Punch c'est du steampunk?
Ah oui. Ah oui, oui. Enfin, c'est des filles en petite tenue qui se battent contre des robots samouraïs géants pendant la Première Guerre mondiale. Oui, c'est totalement gratuit, c'est idiot, mais voilà, visuellement, c'est de très beaux fonds d'écran.
En fait, je pense que c'est une récupération totale de qu'est-ce qu'on peut faire comme film. Qui attire les jeunes avec des petits boutons, on va dire. Enfin, je dis ça en plaisantant, mais voilà.
Et les vieux pervers comme nous.
Des gens, voilà, c'est d'accord. Beaucoup plus large. Et puis aussi bien des gamins qui veulent voir des robots. Et puis, donc bon, c'est un pur produit du marché actuel, peut-être, mais bon, pourquoi pas.
Du coup, moi, c'est comme il y avait un problème d'engagement ou pas. Moi, je pensais à Miyazaki et qui, en général, montre le poids des machines, la machinerie, le poids de l'industrie, enfin, de tout ça par rapport à l'humain, par rapport à la nature. Enfin, voilà, c'était pour poser la question de est-ce que ça va pas aussi vers ça, c'est-à-dire d'opposer quelque chose qui serait de l'ordre de l'humain, de l'esprit, par rapport à la machinerie, quoi.
On a ça dans Jules Verne. Entre Robur le Conquérant, qui est un gars qui crée un univers, il crée l'épouvante, enfin bon, un truc pour vraiment voir des choses, partir à l'aventure, et puis qui devient finalement un gars avec du pouvoir, et qui, voilà, la technique, en fait, au lieu d'être au service de l'homme, l'a servi à un moment, et devient quelque chose de monstrueux. C'est, à mon avis, les deux sens du steampunk, comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je veux dire, c'est la machine peut être bénéfique comme destructrice, quoi, ou faire partir l'homme vers un destin sombre.
Et quand on dit la machine, la science, quoi.
Enfin, la science, voilà
c'est vraiment. Mais c'est comme toute forme de création.
Le rendre fou, en fait. Quoi. Fou de pouvoir.
Voilà, c'est tout le propos dans Steam Boy.
Voilà, on a ça dans Steam Boy, mais on a ça aussi chez Jules Verne à la base. Et puis Marie Shelley, ouais. Frankenstein, tout ce qu'on veut, en allant beaucoup plus loin. La création
long,
qui dépasse l'homme et puis qui.
Mais c'est vrai que par rapport à Miyazaki, on sent aussi l'énorme influence européenne, je dirais, de sur et c'est ça qui est magique avec Miyazaki, c'est qu'en même temps il apporte sa sensibilité japonaise, toute cette sensibilité très liée à la nature et par rapport aux traumatismes qu'ils ont pu vivre avec Hiroshima notamment, et c'est ça, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant moi j'aime beaucoup Miyazaki forcément. Et c'est vrai que c'est effectivement que ce soit le château dans le ciel ou la plupart, il y a ça. Même pour Corosso, avec les avions, quand on voit les avions dans Porcorosso, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont.
Un mélange aussi de poésie. Château dans le ciel, pour moi, c'est plus proche de Magritte. Enfin, je dis ça bon, pour ceux qui voient ce que je veux dire, une espèce Magritte, de rocher flottant là, auquel on donne une autre fonction, mais c'est. En tout cas, les choses flottantes qui ne pourraient pas, qui sont lourdes et qui ne pourraient pas être aériennes, finalement, ça fait partie de la fantasy depuis très longtemps, de la science-fiction. On a tous dessiné des trucs qui volent parce que, voilà, on prend un truc qui est très lourd et puis on le met en l'air.
On va finir sur cette légèreté. Merci à vous d'être venu intervenir et nous éclairer un peu sur ce courant étrange venu d'ailleurs. Merci. Bonne journée.
Merci.